au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Priscille Lafitte.
Jean-Pierre, je vous aime bien, monsieur Guitry.
Illusionniste né, vite, il m'est apparu qu'au mépris des coutumes et des conventions, j'avais pour seule mission de plaire à mes contemporains, afin d'aider ceux qui m'écoutent à être le moins malheureux possible, à ne se résigner en quelque sorte qu'au bonheur. C'est là tout mon message. Comblé par le destin, je n'ai pas eu d'autres soucis.
Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Et merci pour cette introduction, tout en Guitry.
Elle n'est pas de moi, elle est de lui.
Merci d'être venu nous rendre visite à Canal Académie. Jean-Pierre, on vous connaît comme auteur, comme acteur, comme sociétaire honoraire à la Comédie Française, et vous vous révélez comme fervent admirateur de Sacha Guitry pour sa verve, son théâtre, ses fabuleux succès comme auteur, comme acteur, ses succès féminins aussi, des succès dont vous parlez dans votre livre « Je vous aime bien, Monsieur Guitry », paru chez Plon en 2002. Un livre d'éloge, un livre d'amour. Vous y évoquez longuement les amours de Guitry au point où l'on pourrait se demander si vous ne seriez pas un poil envieux. Vous vous lancez également dans un plaidoyer pour que la mémoire de Guitry, sa mémoire d'après-guerre surtout, soit réhabilitée. Alors nous allons y revenir. Mais parlons tout d'abord de ce que vous connaissez, vous, personnellement, de Guitry, et d'abord des quelques rencontres que vous avez eues avec lui. La première remonte, si j'en crois votre livre, à 1948. Vous êtes alors jeune comédien ou français, et Guitry, lui, s'est tout juste remis de la libération. Comment ça s'est passé exactement ?
Ben, c'est passé d'une façon curieuse, mais je voudrais tout de suite ouvrir une parenthèse. Vous avez dit que j'étais envieux de Guitry à propos des femmes. Non, je ne suis pas du tout envieux de Guitry à propos des femmes, car il était surtout cocu. Alors je ne tiens pas à prendre sa place dans ce domaine. Bref.
Parenthèse refermée.
Oui, j'ai rencontré Guitry en 48, car je venais de faire mes débuts officiels à la Comédie Française dans le Barbier de Séville. Et j'ai reçu, ceci se passait au mois de février à peu près, 48, et j'ai reçu un coup de téléphone. J'ai entendu une voix majestueuse qui me disait « J'aimerais vous rencontrer, etc. Venez jusqu'à à moi, enfin bon, bref, tout ça, et je me dis qu'elle est l'andouille qui m'imite Guitry, car il me demandait de passer au studio comme si j'avais quelque chose d'essentiel à lui offrir. En réalité, je suis allé au studio et j'ai vu au loin, dans cet immense studio qui était à ce moment-là encore les studios des Buttes Chaumont, qui vont devenir plus tard ceux de la télévision française, j'ai vu cet homme qui était habillé déjà en Talleyrand. Et j'ai vu Talleyrand me demander de venir jusqu'à lui, etc. Je suis venu jusqu'à lui. Il m'a expliqué pendant une demi-heure ce que j'aurais à faire. J'étais tellement intimidé que je lui ai dit « Maître, je n'ai pas le costume. » Il me disait « Je veux reconstituer la première du Barbier de Séville à Valençay chez Talleyrand. Et pour ce faire, j'ai besoin de Figaro. J'ai besoin aussi de tous les éléments, enfin tous les personnages du premier acte et du second acte. J'ai besoin d'une Rosine. J'ai besoin de Basile, enfin, etc. » Bon, il m'a expliqué tout ça pendant vraiment presque une demi-heure. Il avait arrêté la production et c'est, vous savez, ça coûte cher la minute de production, il avait arrêté tout ça pour m'expliquer tout ça. Et j'étais tellement intimidé que je lui ai dit « Maître, je n'ai pas le costume ». Il m'a regardé comme s'il avait affaire à demeurer, d'ailleurs je l'étais à cet instant-là, et il m'a répondu « Nous tournons dans 3 semaines ». Alors bon, j'ai tourné dans 3 semaines et j'ai cru que ma carrière cinématographique allait commencer sous les auspices de Sacha. Malheureusement, il avait surtout besoin de la calomnie, donc de Basile et de la tirade fameuse, parce que justement, il venait de traverser une période très difficile, très dure pour lui, entre le 23 août 1944, où il a été arrêté, jusqu'à cet instant où il ne pouvait pas jouer au théâtre Le Diable Boiteux, et c'est pourquoi il avait transposé sa pièce au cinéma.
Alors vous aviez à l'époque 24 ans,
oui. Hein,
et vous veniez de vous faire remarquer comme interprète du personnage de Figaro. Oui.
Mais le Figaro dans le film de Guitry n'apparaît pratiquement pas, sinon il saute d'un arbre pour présenter Basile et on enchaîne presque tout de suite sur la tirade de la calomnie.
Alors, seconde rencontre, autre décor, sur le tournage de Napoléon.
Oui.
Et là, vous avez rendez-vous chez lui.
Chez lui, ça, c'est exceptionnel.
Chez lui. Comment c'est chez lui ?
Chez lui, ben, il y a le fameux escalier en spirale qui montait jusqu'à lui. Il était dans une robe de chambre superbe. Il était au premier étage. Venez jusqu'à moi, car c'était une formule qu'il employait volontiers. Venez jusqu'à moi.
Ah bon. Et en robe de chambre, il était quelle heure dans la journée ?
Oh, il était 11h du matin, un truc comme ça. En robe de chambre, mais robe de chambre soie avec foulard, etc. Enfin, il recevait. Il le dit d'ailleurs un peu plus tard dans son œuvre, un peu plus tard ou un peu plus tôt, je ne sais pas quand il a écrit cette phrase, mais je me suis changé, j'ai mis une robe de chambre neuve, j'ai mis un foulard, etc. J'attends un jeune comédien, j'ai rendez-vous avec l'avenir. Ce qui est une très jolie formule. Il ne l'a pas employé pour moi, je crois que c'était pour François Perrier qu'il employait ça. Donc, je suis monté jusqu'à lui, je suis monté jusqu'au premier étage, puis je suis entré dans le fameux bureau. C'était un musée, son bureau. C'était une espèce de pièce ovale, un peu comme celle du président de la République américaine, mais dans l'autre sens. Et il y avait, c'était Renoir, c'était tout, tous les souvenirs qu'il avait accumulés, un chapeau de Napoléon, le pinceau de Renoir. C'était, je vous dis, un musée, je ne peux pas dire autre chose. Et il m'a demandé de prendre les ciseaux qui étaient là, je me suis penché vers le... Enfin, j'ai levé le bras vers les ciseaux qui étaient... C'était un trompe-l'œil, en réalité, ça c'était sa petite fantaisie amusée. Il me faisait prendre un trompe-l'œil pour la réalité, quoi. Mais d'ailleurs, c'était ça, illusionniste né, vite il m'est apparu que, etc.
Est-ce que c'est lui qui avait dessiné ces ciseaux?
Non, c'était une peinture, je ne sais plus qui, c'était une peinture. Non, c'est pas lui. Mais vous savez, j'ai passé une heure avec lui, avec le sentiment... Il me demandait de participer, de jouer Junot dans Napoléon, et en m'expliquant tout ça, enfin, ce que j'aurais à faire une fois encore, et j'avais le sentiment que si je refusais de jouer Junot, le film ne se retournerait pas tellement il était, mais plein, d'abord plein d'ardeur et plein de passion, et surtout, il donnait le sentiment à chacun de nous que c'était le rôle de sa vie. Ça, c'était sa manière de présenter le gâteau. On n'avait pas toujours de quoi manger, mais enfin, ça ne fait rien. Junot se promenait à travers tout le film, et le temps de laisser tomber votre programme entre chaque petit épisode, on ne me voyait plus. Mais, comme s'il avait eu besoin de me convaincre, il me dit cette phrase merveilleuse. Vous savez, d'ailleurs, Gabin n'a qu'un mot à dire. Alors, si Gabin n'avait qu'un mot à dire, ça sous-entendait que Pia pouvait bien jouer ce rôle-là, même s'il ne le trouvait pas très important, ce qui n'était pas mon cas. Je ne demandais qu'une chose, c'était de participer au film. Mais Gabin n'avait qu'un mot à dire, il avait à dire assez. Il jouait l'âne, et devant le champ de bataille d'Elo, il regardait tous les morts, et il disait à Napoléon, mais gros plan sur Gabin, disant assez, il se passait quelque chose. Tandis que moi, dans les plans éloignés, on ne voyait pas beaucoup Junot. Non, mais c'est pas très grave. Vous savez, je retiens de ça l'énorme privilège d'avoir rencontré cet homme.
Oui, alors comment c'était de jouer sous sa direction?
Ah, c'était très traqueur. Toutes les plus grandes vedettes de l'époque, que ce soit Jean Marais, Michel Morgan, tout ça avait la trouille, mais d'une façon terrible. Oui, parce que c'était pas sa faute. Il était impressionnant sans le vouloir. Il était majestueux, vous aviez l'impression d'être devant De Gaulle ou Louis XIV. Alors évidemment, on n'avait pas envie de lui taper dans le dos, quoi. C'est incontestable. Et il n'y avait pas cette familiarité qui existe quelquefois entre les metteurs en scène et les acteurs. C'était Sacha Guitry. Maître du théâtre à Paris, il était le théâtre, il était aussi le cinéma, car ayant dit beaucoup de mal du cinéma, il avait appris à se réconcilier avec lui, et par conséquent, il disait du cinéma que c'était une œuvre très utile. Ce qui était important pour lui au cinéma, c'était pas les images, c'était son texte. Alors, respecter son texte, c'était pas toujours facile pour des acteurs qui sont plus habitués à, quelquefois même à transformer le texte pour être plus à l'aise et pouvoir le prononcer d'une façon plus vraie, plus sincère, plus réelle, plus réaliste. Non, là, pourvu qu'on lise bien le texte de Guitry, quoi, c'était ça, on était accrochés. Or, le cinéma ne permet pas de répéter comme au théâtre. Au théâtre, on répète suffisamment pour arriver à se mettre tout ça à la fois dans le crâne et dans la mâchoire. Là, non. Donc, tout le monde avait un peu la frousse, et moi en particulier. Mais enfin, ça, c'est autre chose. J'étais très traqueur à cette époque-là. Maintenant, j'ai un peu vieilli, heureusement.
Et ensuite, vous n'aurez plus d'occasion de le rencontrer puisqu'il vous avait appelé pour Si Paris m'était compté. Je n'étais pas libre, non.
D'ailleurs, il est mort en 57, donc c'est pas tellement loin puisque je l'ai retrouvé pour Napoléon, je crois, en 53 ou 54. Et après, je n'ai pas pu participer à d'autres films. J'étais quand même au théâtre français et je n'avais pas toujours les libertés nécessaires. Bon, enfin, c'est pas très grave. Les deux rencontres ont été essentielles. Vous savez, j'ai si j'ose dire, le privilège, l'honneur, la surprise d'avoir été doublé par Sacha Guitry à la synchronisation de. J'avais dans Junot
une espèce de.
Oui, j'avais une balade à faire. J'arrivais au fort de Toulon où était emprisonné le Bonaparte en question. Et je devais me coller au mur de la prison. Il y avait une espèce de petite fenêtre. Je devais appeler Napoléon pour le rassurer en lui disant bon, ça y est, le complot est en bonne marche. Et je devais simplement faire. Je courais comme ça. Je devais même me coller au mur de la prison et faire ouh. Et bon, je commence, je cours, etc. J'arrive ouh. Non, Guitry, j'aimerais que ce soit plus large. Ne soit plus large. Ouh.
C'était
pour rappeler Bonaparte qui devait soi-disant apparaître plus ou moins facilement dans cette petite fenêtre qui était au-dessus du mur de la prison. Et bon, etc. Je cavale. Et moi, dans le mouvement de course, je n'arrivais pas à tirer comme il le voulait sur le ou. Alors ça donnait, je courais, j'arrivais, je me collais. Ouh, non, cher Pierre, non. Plus large, n'est-ce pas? Ouh, Alors on a recommencé. Ouh, oui, bien, c'est parfait, très bien, c'est admirable. Bon, et ça a été terminé. Et puis, quand on a synchronisé le son, puisque c'était un son témoin à ce moment-là, puisque nous étions dans la nature, on tournait le fort de l'histoire de Toulon, on l'a tourné à Antibes, bien entendu, parce que c'était les surprises du cinéma, au fort carré d'Antibes. Et quand je suis arrivé à la synchro, et il y avait d'ailleurs Gabin qui synchronisait son fameux AC en regardant le champ de bataille des Lots, et moi j'ai entendu la voix de Guitry faire « Ouh ». Il m'avait remplacé parce qu'il trouvait mon « Ouh » exécrable, il l'avait fait à sa manière, et j'ai donc été doublé par Sacha Guitry, en tout cas dans le « Ouh ». Le reste, c'est moi qui l'ai dit. Mais enfin, il n'y avait pas grand-chose à dire. Et d'ailleurs, c'est extraordinaire parce que j'ai un souvenir inouï de ça. Je vous ai dit, on tournait au Fort Carré d'Antibes, le siège de Toulon, bien entendu. Et il était déjà très atteint, ça l'a très malade. Mmh. Et il y avait des soldats du contingent qui avaient équipé une chaise, un fauteuil Louis XV. Et Sacha était revêtu d'un Panama, parce qu'il faisait chaud. Il est revêtu d'un Panama superbe, il s'asseyait dans le fauteuil Louis XV, les quatre piou-piou mettaient ça sur l'épaule, le siège et Guitry traversait les rues d'Antibes en saluant la foule. « Vive Monsieur Guitry, bonjour Monsieur Guitry, bravo Monsieur Guitry », etc. Il saluait comme... Vraiment, c'était le pape sur la sedia gestatoria, enfin, c'était un peu la même chose. Et on le hissait comme ça jusqu'au Fort Carré pour lui éviter la marche pénible pour y monter. C'était extraordinaire comme spectacle. Il avait un col d'ambre à cette époque-là, et une chemise à fleurs, comme un hippie. C'est drôle, hein? Oui. C'était ça, Guitry. Il était toujours en représentation, m'a dit un jour Henri Jadoux, qui était un homme très proche de lui, son secrétaire, il m'a dit, il était le théâtre. Il était constamment au théâtre. Sauf peut-être en dormant ou en se rasant.
Alors à présent, c'est vous qui doublez Sacha Guitry, puisque vous jouez en ce moment une pièce qui s'intitule « De Sacha Guitry » et qui se joue à la Comédie des Champs-Élysées. Alors, qu'est-ce qui vous, Jean-Pierre, vous rapproche tant de Guitry? Est-ce l'élégance, la gaieté, l'esprit, la propos?
C'est un peu tout ça, si vous voulez. C'est un peu tout ça. Je trouve qu'il parle très bien la langue française, il écrit très bien la langue française, il défend, sans le savoir ou en le voulant, la langue française d'une manière incomparable. Et il a surtout le génie, le souci, le génie de savoir faire rire d'un mot et d'une phrase. Et ça, c'est incomparable. Parce que je trouve qu'actuellement, depuis déjà quelques décennies, nous, Français, nous perdons le sens de notre mission. Les Français sont là pour faire rire le monde, entre autres. Il y a bien d'autres missions, mais si vous partez de Rabelais pour arriver à Voltaire et jusqu'à Feydeau ou Labiche ou Guitry, le génie des Français, c'est la légèreté. Et le jour où on perd cette légèreté, où on devient anglo-saxon, où on devient même allemand ou prussien ou tout ce que vous voulez, on perd notre raison d'être. La raison d'être des Français, c'est d'être gay, même s'ils ont quelques ennuis, mais c'est de savoir traduire ces ennuis avec une certaine forme de... Vous savez, c'est ça qui me frappe dans Guitry, c'est qu'il a eu les pires ennuis. Il n'y a pas que les... On fait toujours allusion à la misogynie de Guitry, mais il y avait de quoi être misogyne. D'abord, attention, c'est qu'il ne faut pas juger avec notre sensibilité de l'an 2007 ce qui se passait il y a 50 ans et même presque au début du siècle passé, car il est né en 1885 et par conséquent, il était de bon ton dans ce cas-là, et à cette époque-là, et les dames s'en moquaient éperdument, il était de bon ton de faire un peu d'humour au détriment des femmes, quelquefois. C'était une espèce de convention. Moi, je trouve le mot le plus misogyne, c'est celui de Courteline qui dit « Les femmes sont tellement menteuses qu'on ne peut même pas croire le contraire de ce qu'elles disent ». Ça, c'est extrêmement misogyne. Bon, et puis, mais après, alors la guerre de 14 est arrivée, les femmes se sont mises au travail à la place des hommes pour les remplacer, donc ils ont pris conscience de leur force et de leur état. Donc, il y a eu cette naissance du féminisme. Et alors maintenant, on traduit ça par misogynie. Oui, d'accord, mais il prend soin quand il écrit, je parle de Guitry, quand il écrit un petit livre qui s'appelle « Elles et toi », qui était destiné directement à Yvonne Printemps, qu'il avait fait cocu, mais d'une façon somptueuse. Et il a vu l'élégance de ne pas citer son nom dans la préface, mais il disait « Évidemment, c'est un peu dur pour toi, mais avoue que tu le méritais bien ». Seulement, on ne sait pas que c'est à Yvonne Printemps qu'il s'adressait presque uniquement. Il a été très malheureux, car elle lui avait révélé ce qui est tout de même de temps en temps merveilleux, elle lui avait révélé la volupté, ce qu'il semblait ne pas avoir connu avant elle.
Ah bon ?
Alors après, on court derrière, si j'ose dire. Mais ça, bon. Donc, si vous voulez, misogynie, non. Et c'est cette ce goût de ce que je citais comme phrase au début, l'illusionniste né vite, il m'est apparu de mépris des coutumes et des conventions de rendre les gens heureux. C'est une très belle mission et elle correspond complètement à ce que nous devons, nous avons un peu cessé d'être quelquefois, ou alors on tombe dans la vulgarité, ce qui n'était pas son cas.
Est-ce qu'il est arrivé à Guitry d'être grave? Et là, je vais vous citer, vous dites, il y a un Sacha charmant, caustique, désinvolte et léger, mais il y a aussi un Guitry plus grave, lucide, moraliste à sa manière, et qui, sans jamais se prendre au sérieux, parle à chaque génération. Et dans votre livre, Je vous aime bien, Monsieur Guitry, vous révélez justement ces moments où Guitry a osé écrire des pages plus graves, des scènes plus lourdes de sens, des réflexions sur la France. Il s'agit notamment de Pasteur. Et Guitry a plusieurs fois aimé faire parler les grands hommes, et ne serait-ce que par ses films historiques, et avec une prédilection pour Napoléon. Il n'y a pas que la légèreté chez Guitry.
Non, bien sûr. Vous savez, le fameux livre qui lui a été très reproché de Jeanne d'Arc à Philippe Pétain, dont le maréchal Lhomme lui avait dit ne donnez pas mon nom à ce livre, vous allez avoir des difficultés, etc. Enfin, peut-être avait-il prévu les choses, je ne sais pas. Mais la France pétainiste, si vous voulez, de cette époque-là, elle s'explique parce que Pétain avait un rayonnement moral considérable, etc. Mais de Jeanne d'Arc à Philippe Pétain, c'est pas autre chose que l'exaltation de tout ce que la France a pu produire, à la fois en littérature, en sculpture, dans tous les domaines des arts. Il parle de Mozart admirablement. Quand il dit Mozart, bien que né à Salzbourg, quand Mozart est né, il est né au monde entier. Bon, c'est simple, mais c'est tout, il faut tout de même le trouver, quoi. Et ce Sacha grave, moi je l'ai connu sans pouvoir déceler à quel point les choses étaient aussi rudes pour lui dans les 3 ans qui avaient précédé, dans les 4 ans qui avaient précédé. Et ce Sacha grave se révèle quand il parle à la jeunesse. Il parle à la jeunesse de façon tout à fait épatante. Il dit, on dit à l'heure actuelle que la France n'est pas reconnaissable. Eh bien, dis à ceux qui te disent que la France n'est pas reconnaissable, réponds-leur, vous ne m'avez donc pas regardé. Et à ce moment-là, ils se rendront compte qu'il... Bon, il exalte les vertus de la jeunesse. Il y a un texte de lui que je vais vous lire, qui est une espèce de mise en garde, enfin, d'adresse aux jeunes gens. C'est sous le couvert, soi-disant, d'un texte découvert, d'un vieux manuscrit en 1462 ou en 1562, etc., au moment de la bataille où les Anglais nous ont traînés dans la boue. Mais en réalité, c'est lui qui l'a écrit, c'est pas du tout un manuscrit qu'il a découvert, et qui dit à peu près ceci, c'est une adresse aux jeunes gens, il dit ceci, « Jeunes gens, méfiez-vous des hommes de 40 ans qui sont insatisfaits. » C'est très politique, hein, si vous pensez aux hommes de 40 ans qui à l'heure actuelle sont insatisfaits, disons qu'ils ont peut-être même 60 ans, et qui sont insatisfaits, et qui pensent que le parti est tel, etc. Bon, « Jeunes gens, méfiez-vous des hommes de 40 ans qui sont insatisfaits, mettez en doute leurs paroles et leurs paroles. » Méfiez-vous de ceux que le succès des autres empêche de dormir. Car de même qu'un livre n'est pas fatalement bon parce qu'il ne se vend pas, de même qu'une comédie n'est pas nécessairement mauvaise parce qu'elle a du succès, n'avoir pas réussi n'est pas une preuve évidente de génie. Ce sont là raisonnements de ratés et vous devriez savoir que les ratés ratent même leur raisonnement. Jeunes gens, méfiez-vous des vieux qui vous disent « place aux jeunes ». Ils n'ont qu'à s'en aller s'ils aiment tant les jeunes. Or, vous observerez que ceux qui disent « place aux jeunes » ne leur offrent jamais que les places des autres. Jeunes gens, défiez-vous des révolutionnaires appointés. Fuyez les petites chapelles où l'on se congratule à longueur de journée, au détriment de ceux qui n'en font point partie. Jeunes gens, fuyez les clans, fuyez les cliques, fuyez les lieux où l'on met en commun des convoitises et des rancœurs. Et pour tout dire enfin, et surtout, jeunes gens, ne soyez pas de ceux qui haïssent, jamais. Tâchez d'être plutôt parmi ceux que l'on est. On y est en meilleure compagnie. Pour cela, travaillez, travaillez pour votre plaisir, travaillez comme si c'était défendu. Prenez la bonne route et allez droit au but. Quand on vous traitera de parvenu, c'est que vous serez arrivé. Bon, il y a toujours un petit mot à la fin pour faire une pirouette, mais dire à la jeunesse, travaillez comme si c'était défendu, c'est une très belle pensée pour un monsieur qui, paraît-il, n'était qu'un rigolo.
Voilà, un pied de nez, comme il savait le faire, à ceux qui disaient qu'il ne serait jamais un créateur et seulement un amuseur.
C'est ça, et on a dit de son théâtre, quand il est mort, bon, sans Guitry, le théâtre mourra, le théâtre s'effondrera. Or, il se trouve que 50 ans plus tard, nous sommes en 2007, il est mort en 1957, 50 ans plus tard, on joue Guitry sans arrêt. Moi, je le joue, oui, j'ai fait un portrait de lui à travers ses textes. Le tissu est de lui, le costume, si vous voulez, c'est moi qui l'ai assemblé, mais c'est tout de même entièrement, tous les mots, d'un bout à l'autre, le texte appartient à Guitry. Donc, si 50 ans plus tard, on joue Guitry alors qu'on joue très peu, pour ne pas dire pas du tout, certains contemporains de cette époque-là, c'est qu'il est peut-être en train de passer à travers le filtre ou les grilles de la postérité, quoi.
On marque une toute petite pause.
Pourquoi la musique de Mozart est-elle tout à fait accessible à tout cœur humain ? Gilles Cantagrel, correspondant à l'Académie des Beaux-Arts, est venu présenter une communication sur Mozart le 22 mars 2006 devant les membres de l'Académie. À travers les manuscrits du célèbre compositeur, Gilles Cantagrel vous propose de découvrir, selon ses mots, quel fut le tempo de la vie du célèbre compositeur dont la brièveté souligne le génie miraculeux. Retrouvez Gilles Cantagrel dans l'émission En séance.
Alors Jean-Pierre, j'aimerais brosser avec vous un portrait, si l'on peut dresser un portrait en si peu de temps, de Sacha Guitry, et particulièrement de ses débuts, là où se joue sa relation avec son père, un grand acteur, Lucien Guitry. Sacha Guitry naît quasiment sur les planches, car son père, Lucien Guitry, part gagner sa vie à Saint-Pétersbourg, où le petit Sacha naît en 1885. Un Sacha dont le parrain n'est autre que le tsar Alexandre III. Et d'ailleurs, Sacha est un diminutif du prénom Alexandre. Qu'est-ce que vous comprenez de cette relation père-fils, de cette filiation très complexe ?
Elle est prodigieusement intime. Vous venez de faire allusion à Lucien, grand acteur et jouant. Oui, il a joué... Il a été engagé à Saint-Pétersbourg, au Théâtre Michel, où on jouait en français, heureuse époque, où on jouait en français à Saint-Pétersbourg. Mais Lucien, donc, est engagé, et il part avec sa femme, avec sa très jeune femme, qu'il a épousée un jour à Londres, se disant, on ne sait pas quoi faire à Londres le samedi, donc j'ai épousé cette femme. C'était une femme qui était fort amoureuse de lui, qu'il avait rencontrée dans un salon en disant des vers. Elle était folle de lui, etc., ce qu'il le méritait sans doute. Donc, bon, il l'épouse, il l'emmène, etc., puis il la trompe, bien entendu, abondamment. Mais il a un enfant aîné, il s'appelle Jean, il faut bien nourrir le petit et la maman, et donc il décide de partir à Saint-Pétersbourg pour honorer un contrat très, très, très bien payé. C'était les stars de l'époque, hein, les gens de théâtre. Et puis il se trouve qu'il ne peut pas supporter d'être séparé de Sacha. Il aimait bien Jean, puisque c'était le frère aîné, mais Sacha, pour lui, c'était Sacha, quoi. C'était le petit dernier. Et un jour, il va l'enlever. Il va arriver un certain dimanche chez les grands-parents qui gardaient les enfants, puisque les parents étaient séparés, et il va dire, bon, Jean n'a pas été très sage cette semaine à l'école, tandis que Sacha, etc., alors je vais emmener Sacha chercher des gâteaux. Alors, il emmène Sacha chercher des gâteaux. En réalité, il enlève Sacha, qui à chaque fois soulevait le manteau sous lequel il était. Son père l'avait fait disparaître dans le fiacre, et il soulevait le manteau en disant, mais papa, il y a une très bonne pâtisserie là. Non, il y en a une bien meilleure. Et il va jusqu'à la gare du Nord, il emmène son fils, il embarque, et ils vont se retrouver à Saint-Pétersbourg.
Tous les deux.
Oui, tous les deux. Et le petit, à 5 ans, va jouer à côté de son père dans une petite pantomime sur Pierrot, qui lui donnera peut-être l'idée d'ailleurs plus tard d'une pièce
de bureau.
Et donc, il va, dès l'âge de 5 ans, il va comprendre qu'on peut gagner sa vie en jouant, quoi. Oui. C'est un peu ça.
Donc, premier épisode d'une relation tumultueuse, oui, qui se poursuit, vous le dites, avec cette vie à deux, cette vie à couple.
Oui, complètement, parce qu'ils vont revenir en France, bien entendu.
Et où le père Lucien fait tailler expressément pour son fils de 5 ans ses costumes.
Tous les costumes de scène, oui, les costumes de scène que portait Lucien, il les est taillé à la taille de Sacha, enfin, du petit Sacha, que ce soit Hamlet ou quelque rôle que ce soit, dont Sallust, ou etc. Lucien était un... disons, de l'emploi des grands premiers rôles. Donc, il lui faisait ses petits costumes, comme ça. Donc, Sacha a vécu complètement dans l'ambiance théâtrale, d'autant que les amis de Lucien Guitry, c'était Alphonse Allais, c'était Courteline, c'était Feydeau, enfin, c'était des gens comme ça qui avaient l'esprit sans arrêt à la bouche, si j'ose dire. C'était des mots d'auteur en mots d'auteur. Il a vécu là-dedans, dans cette ambiance-là, quoi.
On peut imaginer que, du coup, il n'avait pas trop la tête aux études.
Hein. Non, pas du tout, parce qu'il le dit lui-même. J'étais le cancre le plus lamentable et le plus illustre de France. Il a fait 10 sixièmes. Chaque fois qu'il était chassé d'un collège en sixième, on le replaçait dans un autre lycée, un autre collège, mais également en sixième, forcément, il fallait qu'il poursuive. Il était refoutu à la porte à ce moment-là, c'était embêtant. Un jour, d'ailleurs, il avait chahuté, etc. Le père vient trouver le censeur ou le proviseur du lycée. Il lui dit, écoutez, alors, si c'est comme ça, flanquez-le à la porte, dit-il, ça lui fera. Et le proviseur répond, mais je ne peux pas, monsieur, il ne vient pas, n'est-ce pas ? Non, évidemment, c'était assez compliqué. Non, il a fait de très mauvaises études. Tout ce que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois, dit-il, ce qui prouve qu'il s'est rattrapé après, parce qu'il était curieux de tout. Mais il avait le sens du théâtre. Sa première pièce, c'est Nono. Il a 20 ans, en 1905. C'est prodigieux. À 20 ans, il a un énorme succès, reconnu par Jules Renard, qui était aussi un ami de la famille.
Et ce qui est étonnant dans cette relation père-fils, c'est que Lucien Guitry ne l'encourage pas à faire du théâtre.
Pas du tout, mais parce que tous les pères de cette époque-là, ou les mères, d'ailleurs, les parents de cette époque-là, n'encourageaient jamais les enfants à faire du théâtre. D'abord parce que c'était un milieu soi-disant totalement amoral. Et deuxièmement, c'était un métier très incertain. Il l'est toujours. Il est même de plus en plus. Mais ça, c'est comme ça. Mais la différence maintenant, c'est que la télévision a pris le pas sur la peur des parents et qu'on vous les colle dans les bras en disant il est très rigolo dans Les Noces et Banquets, la première communion de son cousin. Il a fait rire tout le monde. Oui, d'accord, mais ce n'est pas suffisant pour faire rire en scène professionnellement. Bref, il y a un changement d'état d'esprit, d'humeur. La moralité, si vous voulez, n'est plus offensée par le théâtre ou par le milieu théâtral. On ne dirait pas plus que dans les milieux, dans les assurances ou dans les banques. Quoi. Donc, c'est une autre attitude, mais à cette époque, là, non. Puis, Lucien savait de quoi était fait ce métier-là, donc il en avait toutes les craintes pour son fils, ne sachant pas si son fils était doué. Il l'emmène d'ailleurs chez un vieux professeur qui lui commence à lui dire, faut apprendre à respirer comme ça, en lui mettant la main sur le ventre. Le petit Sacha est effrayé quand, enfin, le petit Sacha, il n'est pas tout de même. Enfin, il a quand même 13 ou 14 ans, à ce moment-là. Il est effrayé qu'on lui mette la main sur le ventre, il se demande comment ça va se passer la suite, etc. Donc, mais enfin, oui, non, les premiers instants, ça n'a pas été favorable.
Au point où Lucien, son père, lui demande de ne pas porter le nom de Guitry au
théâtre.
Non,
quand il réussira malgré tout à convaincre son père qu'il veut faire du théâtre, qu'il voudrait jouer dans telle ou telle chose, et même dans une pièce que son père, puisque son père est devenu directeur de théâtre, il lui dit, moi je veux bien que tu fasses du théâtre, mais pas sous mon nom. Ce qui veut dire, j'ai pas envie qu'on gâche le nom de Guitry. Voilà. Alors, il joue sous le nom de Lorsay. Je sais pas d'où vient Lorsay, je me souviens plus très bien de l'origine de cet anonymat ou de cette appellation. Mais enfin, il va jouer sous le nom de Lorsay. Et alors, il joue un jour, je peux vous raconter l'histoire, si vous voulez, l'histoire de leur séparation, car ils s'adoraient, mais il y a eu un choc. Il joue La Bonne Hélène, cette pièce où il joue Paris, ce ravissant costume, petite jupette grecque, petite perruque à la grecque, avec un petit ruban autour des cheveux, etc. Enfin, Nadar, qui est un de ses amis, lui dit, écoute, moi, je voudrais faire une photo de ça, c'est pas ordinaire de te voir tout de même. C'est peut-être la seule pièce en costume qu'il va jouer, en tout cas à cette époque-là. Et bon, alors, un dimanche après-midi, après la matinée, il va chez Nadar, qui a un studio du côté de la Madeleine, et il part en costume, puisqu'il va jouer en matinée quelques heures plus tard. Il part avec le costume pour un fiac, il saute dans le fiac, il va chez Nadar. Nadar lui dit, oh, c'est merveilleux, on va faire ça. Bon, il installe tout ça, et curieusement, Sacha tombe sur une pièce de Courteline, La Conversion d'Alceste. Et il se met à lire La Conversion d'Alceste, tout en ayant le Nadar sur le dos, qui dit la tête plus comme ça. Enfin bon, il passe des heures là-dessus, peut-être pas des heures, mais un nombre d'heures suffisant pour que brusquement Nadar lui dise, tu sais quelle heure il est? Non, il est 8h20. Or, on joue à 8h30. Il n'a qu'une hâte, c'est de se précipiter, etc., sur la place de la Madeleine. Et là, il y a un fiacre qui passe, mais une dame l'avait vu avant lui. Et il a couru vers cette dame, et il dit, madame, je suis désolé, mais laissez-moi ce fiacre, on m'attend à la caserne. Or, il est habillé, je vous le rappelle, en berger grec, n'est-ce pas, avec une... Hein, la dame le regarde avec curiosité, en disant, tiens, ils ont changé les uniformes dans les casernes françaises. Bref, elle ne s'étonne pas davantage, elle est complètement enfouie sous l'assaut de Guitry, monte dans le fiacre, et il va au théâtre sur les boulevards près de la Porte Saint-Denis. Et vite, bon, etc. Et pendant une seconde, il a enlevé sa perruque, il l'a déposée sur le siège du fiacre, et puis il se précipite du fiacre, il se précipite dans l'entrée des artistes, etc. Il monte, il entend, oui, ça doit être lui, tiens, il me semble que je le vois. Enfin, les acteurs qui font du texte, parce qu'évidemment, il a loupé son entrée. Oui, ah, si, ça doit être lui derrière le mur. Non, c'est pas derrière le mur, c'est plutôt derrière l'arbre. Vous voyez l'arbre? Ben, l'arbre qui est en face de vous, quel arbre? Ben, celui-là, le grand chêne, là, etc. Ça doit être lui, il me semble le reconnaître. Enfin bon, il dit tout ça, tout ce petit monde bafouille autant qu'il le peut pour faire du texte. Il entre à ce moment-là, et il entre, il a oublié, Il a oublié sa perruque dans le fiacre. Et il entre en mettant son casque. Et bien entendu, comme il n'y a pas de perruque, le casque lui tombe sous le menton. Tout le monde éclate de rire, les gens aussi. Enfin bon, on baisse le rideau, c'est une catastrophe. Et à l'issue de cette représentation loupée, il y a un bulletin de service. C'est le bulletin qui relate les incidents éventuels de la représentation. Il est marqué « Monsieur Lorsay, 100 francs d'amende pour avoir fait rire ses camarades exprès ». Alors il monte chez son père, c'est lui le directeur. Il dit enfin, « Écoute, papa, je n'ai pas fait rire mes camarades exprès. » Voilà ce qui m'est arrivé. L'autre lui fait « C'est à prendre ou à laisser. » Et fiche-moi la paix. « C'est à prendre ou à laisser, je te le répète. » Lucien, c'est un caractère. Hein. Sacha aussi, d'ailleurs, il va le prouver. Et il laisse. Il dit « Bon, c'est comme ça, je m'en vais. » Et pendant 13 ans, ils ne vont pas se revoir. Alors ça, c'est l'incident et la raison de leur séparation de 13 ans, c'est la raison que donne Sacha. Mais la raison que donne Sacha n'est pas tout à fait... Elle est vraie, oui, elle est vraie, la chose est arrivée, bien sûr, mais il y a un autre problème, c'est que à cette époque-là, Sacha a commencé à connaître Charlotte Lizès. Mmh. Et que Charlotte Lizès a été la maîtresse, ou l'est encore, mais enfin, elle a été la maîtresse de Lucien, qui n'a pas admis d'être cocu par son fils, être cocu par n'importe qui, ça peut être, mais par son propre fils, c'est inacceptable. Alors, en réalité, je crois que la séparation de 13 années, c'est tout de même... sans doute beaucoup plus la liaison de l'un avec l'autre ayant chassé l'autre de l'une. Quoi. Voilà.
Et donc, retrouvailles après 13 années. Et Sacha, après ces retrouvailles, est très admiratif et très respectueux du père.
Il n'a jamais cessé d'être admiratif de son père. Mmh. Et le père n'a jamais cessé d'adorer son fils. Seulement, c'était des caractères très, très entiers. Il n'y a rien à faire. Aucun des deux ne voulait céder à l'autre. Et puis un jour, Lucien, qui a adoré Sacha, vient le voir jouer au théâtre Édouard VII. Il joue à ce moment-là de bureau. Il vient un dimanche en matinée. Il avait même pris son billet. Il n'avait même pas demandé de place de faveur. Il avait son billet comme simple spectateur. Et Sacha ne savait pas que son père était dans la salle. Et sur le billet qu'il fait passer, sans même le lui de remettre lui-même, sans aller voir Sacha, sur le billet, il écrit « Viens, je t'attends à dîner tel jour mardi, par exemple, un truc comme ça. » Je crois que c'est mardi, parce que c'était le jour de l'horloge, peut-être le lundi, comme ça l'est encore maintenant. « Je t'attends à déjeuner, viens avec elle. » Elle, ça n'était plus Charlotte Lizès à ce moment-là, c'était Yvonne Printemps.
Ce qui facilitait peut-être les choses.
Je ne sais pas si... Oui, ce n'est pas impossible. Est-ce qu'Yvonne aurait couché avec Lucien? Je ne crois pas, l'histoire ne le dit pas, mais enfin, on ne sait jamais. Bref, non, je ne crois pas. Mais, en tout cas, oui, il est allé, ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre, et ça a été vraiment jusqu'à la mort de Lucien. Il s'écrivait tous les jours, ou il se téléphonait tous les jours. Enfin,
et Sacha a créé des rôles sur mesure pour
Oui, Pasteur, entre autres. Pasteur, entre autres. Oui, il y a une chose charmante, d'ailleurs, quand son père a joué Pasteur, à la dernière répétition, son père s'était donné le mal d'avoir le visage, si possible, le plus ressemblant possible à celui de Pasteur. Et à la première répétition, en costume, justement, ce qu'on appelle le costume maquillage tête faite, si vous voulez, la fille, ou la petite fille, je ne sais plus, Liane Parenté, mais c'est peut-être la petite fille de Pasteur, assistait à cette répétition. Et bon, Lucien Pasteur, si je puis dire, entre sur scène en ouvrant la porte, et la fille de Pasteur fait « Oh, papa !» Et Sacha répond « Ah non, papa !» Car c'était son père à lui, et elle ne voyait que brusquement son père ou son grand-père. Non, je crois que c'est son père, c'est la fille, Pasteur, qui voyait papa pour la première fois sur une scène de théâtre. Et Sacha fait un nom. Papa, moi. C'était très joli. C'est d'ailleurs avec ça qu'il a recommencé en 1944 à rejouer au théâtre dans cette France occupée, dans ce Paris occupé, en septembre 1944. Pasteur.
Est-ce que pendant ces années de séparation, est-ce que ça n'a pas permis à Sacha de s'émanciper du père et de devenir acteur à son tour?
Si, sans doute, si on se réfère à la psychanalyse, il a tué le père ce jour-là. Mmh. Bon, oui, c'est très possible. En tout cas, il s'est réfugié dans les bras d'Alphonse Allais et il est parti dans le Midi, etc. Et il a commencé à faire des dessins. Il a fait des caricatures admirables. D'ailleurs, il a un sens du crayon extraordinaire. Mmh. C'est un hyper doué, c'est un surdoué, Sacha. Et puis là, il a rédigé des petits communiqués de publicité, comme Anouilh d'ailleurs a fait ça aussi, lui, quelques années plus tard, quelques décennies plus tard. Et il y a la fameuse histoire à propos de cette boisson chocolatée qu'on appelait LSK. Il avait inventé LSK, c'est exquis. Et ça, c'est un slogan de de Sacha Guitry. Il avait aussi inventé pour une ceinture, vous savez, on portait des ceintures ventrales, enfin des ceintures abdominales à cette époque-là, pour les hommes en tout cas portaient ça, au moins autant que les corsets des femmes, pour faire disparaître des bides un peu avachis. Et la ceinture s'appelait Frank et Brown, et il disait, c'était le slogan de Sacha, « Mon ventre tombait grâce à la ceinture Frank et Brown, j'ai pu me baisser pour les ramasser. » Pour le ramasser, pardon. Alors voilà, c'était des choses comme ça. Et puis un jour, il a écrit un commencement de pièce. Il l'a montré à Edmond C., qui était un critique de l'époque. Et C. lui a dit, mais c'est pas mal du tout ça. C'est un premier acte. Bon, non, je sais pas, dire Guitry, j'ai écrit ça comme ça. Non, mais moi, je vous dis que c'est un premier acte, faut continuer. Et il a continué, c'est devenu Nono, qui était une pièce en trois actes.
Nous marquons une petite pause.
Dans sa médiathèque, Canal Académie vous donne rendez-vous avec Alain Decaux. Comment lui est venu le goût de l'histoire? Quel est son point de vue sur l'objectivité historique? Quels sont ses combats? Quelles sont ses fiertés, ses projets? Alain Decaux se livre en toute vérité. Et quand il raconte, on retrouve le Decaux que nous avons tous aimé écouter à la télévision, à la radio. Alain Decaux est sur Canal Académie.
Autre aspect tumultueux de la vie de Sacha Guitry, sa relation aux femmes, puisque Sacha vit quelques années sans sa mère, puisqu'il a été enlevé puis élevé par son père Lucien. Sacha, on l'a dit un peu plus tôt, pique une des conquêtes de son père et la prend pour femme, c'est Charlotte Lysès. Et puis les années de bonheur avec Yvonne Printemps, les grandes heures de théâtre, les frasques du couple qui font le tour de tout Paris. Et puis Guitry rencontre Jacqueline de Lubac avec laquelle il se lance dans le cinéma. Il y a ensuite Geneviève de Séréville, l'épouse du temps de la guerre, et puis Lana Marconi, sa veuve, comme il le dit lui-même. Alors, on ne va peut-être pas revenir sur chacune de ces périodes, mais il y a une chose que vous notez particulièrement dans votre livre, Jean-Pierre, qui est particulièrement intéressant, c'est que ces frasques amoureuses transparaissent dans son écriture théâtrale, puisque Guitry le dit lui-même, c'est par nos drames que nous écrivons nos comédies, et parfois l'homme et le personnage se confondent sur les planches. Et c'est ce qui est troublant chez Guitry. Et vous relevez des moments, tout spécialement lors de sa vie en couple avec Yvonne Printemps, des moments où il rejoue avec Yvonne sur scène les déboires qu'il connaît à la ville.
Bien sûr.
Les met en scène. Alors, est-ce que c'est une manie de Guitry de voir du théâtre partout, de prendre, pour exemple, sa propre vie, d'écrire en tout temps et à tout propos, ou est-ce que c'est une volonté de régler ses comptes sur les planches? Comment est-ce que vous le voyez?
Vous savez, il faut partir d'un principe simple. Tout créateur d'œuvres dramatiques écrit avec ce qui lui est arrivé. Bon, ça donne quelquefois Hamlet, bien entendu, je ne sais pas si Shakespeare a été Hamlet, mais en tout cas, ça donne le misanthrope. Car il est évident que Molière a beaucoup souffert de la légèreté d'Armande, et par conséquent, il a écrit dans le misanthrope à Armande une lettre ouverte, en quelque sorte, car ça se termine, le misanthrope, par « il dit à Célimène, allez, je vous refuse ». Quand elle lui propose enfin de le rejoindre dans son petit coin noir pour chasser son chagrin, etc. « Allez, je vous refuse. » Ce qu'il ne dit jamais à Armande, il va mourir avant. Donc, il y a, dans toute part de création littéraire, il y a une part de l'auteur, de l'écrivain, une part intime. « Frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie, » dit Musset. Et c'est vrai que dans ce théâtre romantique, on met toujours le cœur en avant. Lui, Sacha, c'est une autre forme. Il dit d'ailleurs à ce propos-là, « Je n'imagine rien qui soit faisable sans que le théâtre et l'amour soient mêlés, inséparables, confondus jusqu'à quelquefois même les confondre, dit-il. » Et c'est pour ça qu'il a mis en scène, souvent, pas toujours, souvent ses propres aventures féminines, parce qu'il dit d'ailleurs, elles sont à propos des femmes, elles sont un inépuisable sujet d'emmerdement, mais aussi de pièces. Oui, elles sont des sujets de pièces, c'est évident. Qu'est-ce qui se passe? La grande dramaturgie, au fond, en dehors des grands problèmes sociaux, politiques, etc., la dramaturgie, c'est toujours un monsieur et une dame.
Surtout
chez lui, mais vous savez, si vous plongez un peu dans les œuvres annexes, si je puis dire, du temps ou d'avant ou d'après, il y a souvent ou presque 80% de sujets qui sont basés sur les relations d'un monsieur et d'une dame, ou des messieurs et des messieurs, ou des dames et des dames, peu importe, mais c'est la sensibilité intime d'un auteur qui est inscrite dans son œuvre. Donc il n'y échappe pas, et comme exemple, moi, dans le bouquin dont vous avez bien voulu citer le titre, j'ai pris la fameuse histoire de Franz Hals, où il demande à Freinet, qui était à ce moment-là soupirant, et pour ne pas dire plus, il était déjà sans doute l'amant d'Yvonne, il lui demande de jouer l'élève qui va admirer Franz Hals et qui sera obligé de dire « Oh maître, je vous respecte, vous avez du génie » et tout ça, il sera obligé de le dire à Guitry, parce que Guitry joue Franz Hals, bien entendu, et que Freinet joue l'élève, l'apprenti peintre, et tout ça sous les oreilles, si je puis dire, d'Yvonne, qui, elle, joue une jeune femme là-dedans. Et le soir, la générale, elle va même pleurer quand il va annoncer la pièce que vous venez d'entendre de M. Sacha Guitry, etc. Elle aura du mal à aller au bout de son annonce personnelle, parce qu'elle a très bien reconnu qu'elle était complètement concernée là-dedans, car il a beaucoup souffert de ça, et il demandait à Freinet, il y avait dans le texte, je ne me rappelle plus les mots exacts, mais le personnage de Freinet disait à Guitry, quand on est un génie comme vous, on doit être reconnu par tout le monde, tout le monde doit se sacrifier pour vous, etc. Enfin bon, tout ça, tout un baratin extraordinaire, et tout ça, c'était Freinet qui le disait sous l'œil ou sous l'oreille attentive de Yvonne. Moi, j'aurais voulu être à la première lecture, parce que ça ne devait pas être de la tarte, parce que vraiment, il ne se dissimulait pas. Mais Paris ne le savait pas à ce point-là, en tout cas. Mais il a adoré les femmes, Guitry. Seulement, vous savez, quand on écrit 130 pièces, quand on écrit 35 ou 40 films, quand on écrit des poèmes, quand on écrit des livres, car il a écrit des livres, il a écrit des poèmes, il a écrit des contes, il a écrit tout le temps. Quand on écrit des impromptus parce que on inaugure le poste parisien ou parce que brusquement le roi d'Angleterre vient en France, etc. On n'a pas le temps, on adore les femmes, on n'a pas le temps de leur consacrer toutes les nuits nécessaires, surtout quand elles sont très demanderesses comme Yvonne. Donc, adorer les femmes, on a dit même de lui qu'il était impuissant. On a dit de moi les pires choses. On a même dit que j'étais pédéraste. Ce qui, j'ose le dire, est une accusation sans fondement, dit-il. Bon. On l'a accusé de tous les maux, mais qu'est-ce qui reste d'un auteur dramatique, d'un écrivain? Son œuvre. C'est plus important que n'importe quoi.
Enfin, si vous voulez bien, Jean-Pierre, on va arriver à un autre pan de la vie de Sacha Guitry. Peut-être la période la plus sombre pour Guitry, ce sont les années d'après-guerre. L'après-guerre commence pour lui dès 1944. Il dit qu'il a été le premier prévenu de la libération. Un épisode qui passe par 60 jours en prison, au motif qu'il aurait collaboré avec les Allemands. Et dans ce livre que vous avez écrit, Je vous aime bien, Monsieur Guitry, Jean-Pierre, vous prenez le parti de défendre Guitry, bec et ongle, point par point. Pourquoi avoir choisi de le défendre ainsi? Est-ce que le double non-lieu dont a bénéficié Guitry ne suffit pas?
Vous savez, quand vous avez deux non-lieux, c'est qu'il n'y avait pas lieu, comme il le dit. Mais le premier survient en 1945, il a été arrêté le 23 août 1944. La date officielle de la libération de Paris, c'est le 25. Donc, deux jours avant la libération officielle de Paris, on prend soin d'arrêter Guitry comme si le sort de la France en dépendait. C'est pas évident, bref. Et ensuite, le deuxième non-lieu a lieu en 1947, c'est-à-dire 3 ans plus tard. Et pendant ces 3 ans, il a été 2 mois, évidemment. Si on compare ça au camp de concentration, c'est bénin. Mais il a quand même été embarqué pendant 2 mois, alors qu'il n'était pour rien dans la défaite de la France, qu'il n'était pour rien non plus dans la collaboration de la France, car la France de Vichy a été collaboratrice, et ça ne se discute même pas. Il y a eu même une tentation de régime politique dictatorial. C'est comme ça, la milice, tout ça a fait énormément de tort. Et ce qui a fait énormément de tort, c'est qu'il y a une partie de la France qui était hébétée. On n'imagine pas ce qu'a été la France en 1940. C'est ahurissant. Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts. La France a la première armée du monde, etc. Et puis, brusquement, en 3 semaines ou en 5 semaines, elle est balancée, etc. Et un vieux maréchal dit, il faut arrêter le combat, armistice, etc. La France est totalement hébétée. Et on trouve toujours évidemment des responsables, et par conséquent on dénonce les responsabilités, etc. Et il y a une grande partie de la France qui admire Pétain, et par conséquent les gens continuent à travailler, quoi. Quand, vous savez, la chose essentielle de Guitry, c'est son goût du spectacle, etc. Il ne le perd pas parce que la France est battue. Il est à Dax, il se repose à Dax quand arrive le message de Pétain. Et il l'entend, bien entendu, il est entouré de quelques amis, etc., et dont un monsieur qui s'appelle Bergson. C'est pas n'importe qui non plus, etc. Et puis, on sait qui est Guitry, il entend ça, bon, la France est par terre, c'est abominable. Et après 3 semaines, 1 mois de réflexion, un jour, un officier allemand le croise dans le hall de l'hôtel du Grand Hôtel de Dax, où il s'occupe d'essayer de soigner ses rhumatismes. Et l'Allemand lui dit, si vous voulez rentrer à Paris, l'admire M. Guitry. Ben, vous êtes M. Guitry? Oui, je suis M. Guitry. Permettez-moi de vous dire mon admiration. Merci, monsieur. Enfin bon, etc. Tout ce qu'on peut dire dans ces cas-là. Et l'autre lui dit, si vous voulez rentrer à Paris, toute l'essence que vous souhaitez est à votre disposition, etc. Et Bergson, à qui il en parle, dit, Bergson, il faut remonter à Paris, Sacha, c'est indispensable, il faut que la vie française reprenne. Or, Bergson est un grand philosophe juif, il sait de quoi il parle lui aussi. Bon, et ils vont remonter à Paris. Qu'est-ce qu'il va monter à Paris? Il ne va pas remonter une pièce fantaisiste pour faire rigoler le monde, il monte Pasteur. Pourquoi? Parce que Pasteur est un des plus grands savants français et qu'il estime qu'il est indispensable et important que, pour les Allemands occupant Paris et la France, on puisse dire, voilà, il y a eu cet homme-là quand même, etc. Bon, donc, pour jouer cette pièce, il faut avoir l'autorisation des Allemands. Les Allemands ne sont pas fous. Ils lisent Pasteur, ils s'aperçoivent qu'à la fin du dernier acte, le président de la République française vient décorer Pasteur de la Légion d'honneur, qu'on joue la Marseillaise, etc. Bon, ils disent, on veut bien que vous jouiez Pasteur, mais vous coupez tout ça. Et Guitry répond, la pièce sera jouée dans son intégralité ou elle ne le sera pas. Et il y a un certain général allemand qui s'occupe plus ou moins de la culture, puisque les Allemands sont déjà installés depuis presque trois mois à ce moment-là, et qui est un admirateur fou de Guitry, et qui dit, la pièce de Guitry sera jouée dans son intégralité, etc. Je suis totalement de cet avis, il faut laisser jouer, etc. Car, vous savez, moi j'ai 20 ans, 44, bon, je me rappelle certaines choses quand même. Les 6 premiers mois avant le premier attentat que subit un Allemand, un officier allemand, on dit des Allemands, ils sont corrects. On n'a pas encore eu les 100 types fusillés pour des raisons X ou Y, on n'a pas encore eu tout ça, donc dans les premiers mois, ils sont corrects. Tout ce qu'on peut dire. Bon, la vie reprend, malgré tout, parce que la vie, c'est la vie, hein, c'est fort, la vie. Et donc, bon, on monte Pasteur dans l'exposition que Guitry a écrit, et puis la première arrive. Il y a des Allemands dans la salle, comme moi j'en ai connu quand j'ai joué plus tard. Là on est en 40, enfin j'ai 16 ans en 40, mais enfin, et on est en 40, pardon, j'ai avancé trop tôt là, mais enfin on est en 40. On joue donc la pièce de Sacha, il y a des Allemands dans la salle, moi j'en ai connu en 43 dans les salles ou 44 que j'ai fréquentées en jouant la comédie, il y avait toujours des Allemands dans les théâtres, et parce qu'il y en avait quand même qui comprenaient le français. Et arrive le troisième acte, et président de la République, Marseillais, etc., la salle, en larmes ou pas en larmes, peu importe, elle se lève en hurlant, bravo, tu sais, qu'est-ce que fait le général allemand et les Allemands qui étaient dans la salle? Ou ils restent assis, ou ils se lèvent, mais enfin, peu importe, ils entendent ça, ils peuvent pas faire autrement. Et le fameux général allemand, dont le nom m'échappe, mais c'est pas très grave, va trouver Guitry pour lui dire, j'ai passé une soirée... tout à fait remarquable, et Guitry le prie de s'asseoir en disant, enfin il raconte l'histoire, j'ai prié cet homme de s'asseoir parce que je suis un homme bien élevé, je l'ai prié de s'asseoir pour un quart d'heure, mais pas pour 4 ans. Mmh. Et c'est inattaquable, et il dit d'ailleurs, j'ai pas eu besoin de la guerre pour devenir Guitry. Et vous savez, il y a une chose qu'on oublie malgré tout, c'est que quand on l'a arrêté, quelques mois ou quelques temps plus tard, à la suite du deuxième non-lieu, le motif de l'arrestation... c'était écrit sur un petit bout de papier. Sur le petit bout de papier, il y avait motif de l'arrestation ignoré. C'est tout de même beaucoup. Et les attendus, on n'en parle plus de ça, mais les attendus du juge... Et on n'était pas câlin hein, à ce moment-là, en 40. Enfin, au 40... Non, puisque le dernier non-lieu est de 47. Donc, c'est en 47. Le troisième non-lieu, les attendus concluent la conduite de M. Guitry. Pendant l'occupation, aurait pu servir de modèle à d'autres. Bon, c'est clair.
Alors, si vous vous attachez comme ça à défendre la mémoire de Guitry point par point, est-ce que vous estimez que cette mémoire a toujours besoin d'être réhabilitée aujourd'hui?
Non, parce que d'abord je suis trop faible par rapport à l'événement historique pour ça, mais je trouve, si vous voulez, injuste. Il n'y a pas très longtemps, je dînais chez des amis charmants et j'entends un monsieur qui fait « Oh, tout de même, il a été collabo ». Alors là, j'ai ouvert le dossier parce que ce n'est pas très acceptable qu'on reparle. Mais d'ailleurs, lui n'avait aucune illusion. Il disait « À propos de ça, ça va me rester dans les pattes jusqu'à pendant un siècle ».
C'est vrai.
Il y aura toujours ça. C'est très difficile. Dans une période où un pays est occupé, qu'est-ce qu'il fait? Un pays, c'est comme les hommes. Ou ça meurt, ou ça vit. Ben si ça vit malgré une maladie. Il y a une maladie très, très indécente qui s'appelle l'occupation du pays, c'est une maladie, c'est un cancer. Est-ce qu'on lutte contre le cancer? Oui, on lutte contre le cancer, ça s'appelle la résistance. Et il y a d'autres qui essaient de s'accommoder du cancer, ça s'appelle les médicaments qu'on peut poser pour que l'homme tienne le coup, etc. Il continue à vivre et quelquefois, il passe au-dessus et il triomphe du cancer. Bon, ben c'est comme ça. C'est ce qui est arrivé à Guitry, mais il est évident que la tâche est indélébile.
Et a été indélébile jusqu'à la fin de sa vie, pour lui. Il a souffert jusqu'au bout.
Oui, oui, incontestablement. Il n'était plus... C'est pour ça que j'ai appelé mon spectacle de Sacha à Guitry, parce qu'il y a un Sacha désinvolte et il y a un Guitry atteint.
C'est justement ce dont je voulais parler avec vous pour terminer. Donc, vous évoquez votre pièce que vous jouez pendant toute la saison 2007-2008 à la Comédie des Champs-Élysées, qui s'intitule De Sacha à Guitry.
Oui.
Pourquoi alors? Expliquez-nous cette dissociation.
Ben, je vous ai donné presque la réponse avant que vous me posiez la question, mais c'est vrai qu'il y a un Sacha désinvolte de 20 ans, jusqu'à la guerre. Mmh. Et puis, un Sacha grave atteint par les choses et amer. Atteint par cette accusation qu'il estimait injuste, qui était due en grande partie au fait qu'il est une notion actuelle, à savoir qu'il a continué à manger, à bien manger, etc., et à vivre luxueusement pendant que d'autres crevaient. C'est vrai, mais il y a toujours des inégalités de cet ordre, il n'y a rien à faire. Alors, bon, ça crée un Sacha plus amer, dans les œuvres d'ailleurs aussi, et puis dans la démarche, dans l'attitude. Mais moi, personnellement, je peux vous jurer que l'ayant rencontré en 48 et l'ayant retrouvé en 53, je n'ai pas eu une seconde le sentiment que cet homme avait été atteint. J'ai découvert tout ça bien après, je ne savais pas du tout qu'il avait été arrêté pendant l'occupation, à l'issue de la libération de Paris. Non, non, non. Et on ne pouvait pas le deviner. C'est qu'un de mes amis qui était au Français qui m'a dit « Oh Jean, si vous aviez connu Sacha avant la guerre, c'était autre chose. À la fin d'un film, il y aurait eu une espèce d'invitation à dîner avec tous les participants artistiques. » Et tous les services machinistes électriques, etc. Enfin, l'ensemble, la famille du film, c'était ça. Bon, après, il ne pouvait plus parce qu'il n'avait plus les moyens d'existence nécessaires. Vous savez, pendant 3 ans, tous ses comptes ont été bloqués. Il a dû vendre des tableaux pour vivre. Et puis les impôts lui tombaient dessus aussi. C'était encore une notion nouvelle qu'il n'était pas habitué à payer des impôts. Il n'aimait pas payer des impôts. Car Sacha était extrêmement généreux et radin en même temps. Oui, oui, ça payait des impôts. C'est une époque où les gens ne l'appréciaient pas. Maintenant, il serait mort sous les impôts. Mais là, il n'avait plus beaucoup d'argent, il fallait qu'il travaille. Quoi. Vous savez, pendant 3 ans, vivre, continuer à vivre, plus ou moins bien, mais il avait l'habitude de vivre dans un certain luxe, c'est pas sa faute, c'est l'époque. Un prince ne vit pas, ou un roi ne vit pas comme tout le monde, c'est comme ça.
Est-ce que pour finir, Jean-Pierre, vous voudriez bien nous lire un dernier extrait de votre pièce?
Je vais vous lire ce qui pour moi ressemble à une autre profession de foi, c'est l'extraordinaire respect qu'il a pour le public. Et c'est une très belle conclusion, si vous voulez. Elle appartient à mon spectacle, mais peu importe. C'est une adresse, en quelque sorte, au public. Il lui dit ceci. C'est merveilleux d'avoir l'occasion de parler comme ça tous les soirs à 3, 4, 5, 800 personnes. Vous savez ce que c'est pour nous, le public? C'est un pays. Notre pays. Et c'est si singulier que de pouvoir se dire « je parle à mon pays, je l'émeut, le fait rire ». On aimerait parfois aller même plus loin et penser que peut-être on lui a fait du bien, en lui donnant toutes les joies possibles. Et tout ce qui est beau, ce qui est accessible, plutôt que lui montrer la misère, la laideur, lui dépeindre l'amour, la santé, le bonheur. Car vous êtes partout, public, toujours le même, espérant un plaisir, une émotion suprême. Et quand vous êtes bon, je jure qu'on vous paierait pour que le rideau rouge ne retombe jamais. Par malheur, certains soirs, vous êtes si mauvais qu'on aurait intérêt à ne pas le lever. Vous voyez cette espèce de respect qui se manifeste pour le public, et cette joie, c'est vraiment une part de lui-même qui s'adresse au public, à savoir, je vous dois tout. En quelque sorte, mais je vous dois tout parce que j'ai tenté de vous apporter tout, j'ai tenté de vous donner tout ce qu'il y avait en moi de possible, de valeur. Il a, dans Jeanne d'Arc et Philippe Pétain, il exalte aussi bien les peintres que Molière, qu'un grand sculpteur, il donne aussi des idées sur l'éducation. Enfin, il a donné beaucoup de lui-même. Et il dit merci au public, vous m'avez permis de donner beaucoup de moi, et par conséquent, l'émotion, c'est moi qui en suis l'heureux bénéficiaire, car c'est merveilleux de pouvoir parler comme ça tous les soirs à des gens pour leur dire vous êtes heureux, quoi, au fond, il ne vous manque que de le savoir.
Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci d'être venu sur Canal Académie. Je précise que les auditeurs pourront trouver une biographie complète de vous, Jean-Pierre, ainsi que beaucoup de détails sur la vie de Sacha Guitry, tout ceci sur le site de Canal Académie. Et puis je précise également que cette émission s'est faite en partenariat avec la Cinémathèque française et avec la Bibliothèque nationale de France. Et Canal Académie vous propose une série d'émissions consacrées à Sacha Guitry. Bonne journée à tous.